Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial La bataille de Saint-Léonard, nouveau documentaire de Félix Rose. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut Pat.
Donc,
hi Patrick.
Ouais, bonjour, hi. Alors, écoute, on a eu le bonheur de s'entretenir avec Félix Rose, qui nous avait donné un documentaire très percutant sur sa famille.
Oui, les Roses ouais. Qui étaient impliquées dans la crise d'octobre à l'époque. Puis c'est aussi que le docu Les Roses, quand il est sorti en 2021, je pense, de mémoire, a eu vraiment un gros succès. Je pense que c'est à ce jour le plus gros succès de l'ONF au cinéma. Là, je dis
quand même,
mémoire, ouais. Là, je pense que je le mentionne avec lui, mais moi, je pense que c'était ça.
Fait que là, il reste dans le domaine du politique. Moi qui s'intéresse quand même beaucoup à l'histoire, je ne connaissais pas ce pan de notre histoire à nous, québécoises. La bataille de Saint-Léonard qui se déroule à la fin des années 60 dans le quartier italien de Saint-Léonard à Montréal.
Ouais, puis ce qui est bien, c'est que peut-être vous dites « Ah, oh, ça a l'air d'un film montréalo-centriste et tout », c'est comme, ben, je veux bien admettre que physiquement, ça se passait à Montréal, mais c'est ce qui a mené à la loi 101, qui ouais. est sur l'application et le respect de la langue française-canadienne au Québec. Fait que c'est un point tournant qui s'adresse à tout le Québec, puis qu'il y a des questions éthiques et sociales qui sont encore d'usage aujourd'hui.
Ah oui, parce que tout était question d'intégration, de l'immigration et tout ça. Donc, et on va suivre donc en parallèle, c'est Raymond Lemieux qui était à la tête de ce mouvement-là, d'avoir des écoles francophones, finalement, que les nouveaux immigrants, que leurs enfants... dans les écoles francophones,
français,
ouais, l'enseignement en français. Et je sais pas, c'était-tu Robert Baronnet ou
Mario
Baronnet, qui était un entrepreneur italien qui lui, justement, plaidait pour le choix, finalement, le libre choix des immigrants. Fait que double récit parallèle, on voit la répercussion aussi du militantisme chez les membres de ces familles-là aussi, quand même, que ça a des impacts. Fait que, quand même, un documentaire très intéressant qui est quand même assez dense. Là. Il y a beaucoup d'éléments, mais je trouve qu'il est vraiment quand même bien monté, très accessible.
Et, ben, on va en discuter avec ouais. Félix dans quelques instants, mais un gros travail de recherche d'archives pour appuyer visuellement le film puis rendre ça très dynamique. Fait que, peut-être vous nous écoutez après avoir vu le film. Félix en discute davantage sur le processus, surtout, il est super intéressant. Il connaît bien son sujet et tout. Puis peut-être que vous écoutez l'épisode avant de voir le film. Ben, il n'y a pas vraiment de divulgateur étant un documentaire historique. Là. Fait que j'espère que ça va vous convaincre d'aller voir ce film-là et de le voir au cinéma. On le mentionne à la fin de l'entrevue, mais c'est vraiment un bel habillage sonore, visuel. On a tendance des fois à dire « Ah, si le film a coûté 200 millions de dollars, là, je vais aller le voir au cinéma, sinon on m'entendre, on va l'écouter chez nous. » Mais ça se vit très bien, puis c'est un film qui ouvre à la discussion. Fait que moi, ouais. je trouve ça parfait, une sortie cinéma, de pouvoir jaser. C'est ça, si vous avez une date, là, mettons que vous êtes très intense d'aller voir Bataille Saint-Léonard en date, allez voir le film avant de souper, comme ça, vous allez pouvoir jaser. Peut-être vous chicaner, puis peut-être tout de suite, vous allez savoir si c'est un fit ou pas, là, selon... votre idée de tout ça. Fait que, sans plus tarder, notre entretien avec Félix Rose et la bataille de Saint-Léonard prend l'affiche le 11 octobre dans tous les cinémas, j'espère, du Québec.
C'est avec grand bonheur qu'on accueille le scénariste et réalisateur et même coproducteur du documentaire La bataille de Saint-Léonard, Félix Rose. Bonjour Félix.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir ici au CLAP.
Merci de passer dans le balado.
Oui, de passer à Québec. Belle
ville. J'aime ça, Québec. Moi, je viens souvent à Québec. C'est la deuxième fois que je présente le film à Québec.
Oui, c'est vrai. C'est ça, tu as présenté au Festival de cinéma de la ville de Québec.
Exact. C'était la première mondiale.
Première mondiale. Moi, tu sais, souvent, les premières, c'est à Montréal. Ouais. Moi, j'ai une conception différente. Je fais des films québécois, pour les Québécois. Il n'y a pas juste Montréal dans la vie. J'aime Montréal, je viens de Montréal. Mais la bataille de Saint-Léonard, même si Saint-Léonard est identifié à Montréal, ça reste que le débat, on pourra en parler, se transpose à Québec. C'est, Québec est un personnage du film. Puis vu qu'il y a beaucoup d'éléments politiques, je trouvais ça vraiment pertinent d'ouvrir à Québec. Puis là, après, on a amorcé une tournée régionale. T'sais. Avant de le présenter à Montréal, on le présente à Percé. Je reviens du Saguenay. On le présente demain à Trois-Rivières pour montrer que c'est pas juste les grandes villes qui devraient avoir accès ouais. au documentaire.
T'sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas juste un sujet montréalo-centriste, comme
vraiment
on dit.
Vraiment pas, parce que... Tu sais, Saint-Léonard, ça commence avec une guerre de clochers. Tu sais, les Italiens arrivent au Québec, puis ils réalisent, pour avoir accès au meilleur job, il faut que tu parles anglais. Puis il décide, il demande
assez longtemps. Là, on est dans les années 60, exact. À peu près.
C'est 67, 68. Mais tu sais, ils construisent une ville. Mario Baronin, un entrepreneur, construit Saint-Léonard. Puis là, il y a beaucoup d'Italiens qui y vont. Puis eux, ils demandent une école bilingue. Puis les francophones qui y vont réalisent que leurs enfants, ils reviennent anglicisés. Parce que les écoles bilingues, c'est pas mal plus l'anglais que le français. Puis là, ça crée une espèce de chicane qui fait que, OK, il y a une élection scolaire. Les francophones gagnent. C'est la première fois qu'il y a une élection scolaire, une élection qui décide ça va être quoi la langue d'enseignement. Puis là, les Italiens sont pas contents. Donc là, ça a créé une espèce, ça part de là, mais après, ça devient un débat national parce que là, le gouvernement de l'époque dit, OK, on va régler ça vite. Tout le monde peut décider la langue d'enseignement, le libre choix. C'est réglé. Mais là, les francophones ne sont pas contents parce qu'eux, ils se sentent menacés. Ils disent, mais là, si les nouveaux arrivants parlent juste l'anglais, c'est notre langue, notre culture qui est en danger. Donc, le Québec devient à feu et à sang, puis là, ça va dans la ville de Québec. Puis il y a des émeutes à Québec. Il y a eu une célèbre émeute à Québec qui est le Bill 63. Puis là, les Italiens, eux, comme je te dis, ils n'étaient pas de mauvaise foi. Eux, c'était pas contre le français. Et eux, ils pensent le meilleur pour leurs enfants. Donc là, ils se ramassent comme instrumentalisés là-dedans.
Ouais.
Parce que là, les francophones, tu sais, ça devient le bouc émissaire de cette crise-là. Puis ça a créé des tensions, puis ça a pris des années, une cicatrice, puis ça a pris des années à guérir, tu sais.
Est-ce que, je pense assez rapidement, pas à la fin, mais je t'entendais parler, puis c'est un débat qui est encore actuel aussi, la peur de perdre la langue est une partie de notre culture, notre histoire, puis de dire avec l'immigration, oui, c'est bien beau, mais parler français, le fameux bonjour aïe qu'on entend à Montréal, puis ces trucs-là, fait que, qu'est-ce qu'on peut... T'sais, c'est important finalement de savoir d'où on vient pour aller de l'avant? Ou...
Mais moi, c'est comme un peu l'essence de ma démarche. T'sais, c'est tout le temps... éclairer, dans le fond, le passé pour mieux comprendre le présent.
Okay.
Parce que, tu sais, souvent, l'histoire, on a tout le temps à répéter les mêmes erreurs du passé. Puis peut-être c'est un problème de transmission. Tu sais, au Québec, la crise de Saint-Léonard n'est pas connue. Pourtant, c'est ça qui mène à la loi 101.
Ouais.
Puis la loi 101, on en parle à tous les jours, fait partie de l'espace public. Mais il n'y a pas d'incarnation à la loi. C'est comme si elle avait déjà été là. Mais avant Camille Lorrain fasse sa loi, c'est parce qu'il y avait un mouvement populaire qui amenait à ça. Puis il y avait un avant. Tu sais, le Québec des années 50, où tu étais obligé de parler en anglais au patron, tout ça, puis que l'anglais était l'outil partout, on veut pas revenir à ça. Tu sais, donc, mais les jeunes, peut-être, sont pas conscients de ça, sont peut-être moins complexés par rapport à la langue parce qu'ils n'ont pas vécu l'oppression de leurs grands-parents. Ce qui fait qu'au moins, ce film-là, au moins, permet de comprendre d'où ça part. Puis tu sais, moi, dans la vie, j'aime avancer, j'aime pas reculer. Tu sais, j'étais à Percé, puis j'entendais des jeunes parler dans la rue, puis ils disaient, tu sais, la loi 101, là, il serait temps qu'on en revienne, là. T'sais, le libre choix. Mais ça, c'est des discours des années 60. Là, je veux dire, la loi 101 a contribué à ce que les Québécois soient fiers de leur langue, est enseignée. C'est une loi très importante, mais elle manquait de contexte. Puis c'est ça que j'espère amener avec le film, puis amener un dialogue au débat actuel.
J'allais juste dire, qu'est-ce qui précise exactement la loi 101 qu'on l'utilise la dans la 101, francophonie?
Mais... La langue officielle du Québec, c'est le français, c'est clair, mais c'est la langue d'enseignement, c'est le français.
Okay.
Donc, les nouveaux arrivants doivent s'instruire leurs enfants en français, sauf les gens, la communauté historique anglophone qui, lui, peut continuer à envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Ça, qu'est-ce qui est fait? C'est que vu qu'à l'époque, les nouveaux arrivants avaient plus tendance à aller vers l'anglais que le français, ça fait que tous les gens qui arrivaient ici utilisaient la langue de la majorité, apprenaient dans la langue de la majorité, qui était le français.
OK.
Moi, je vais juste revenir au point de départ de tout ça. C'était quoi... Justement, ce point de départ-là, de vouloir t'attaquer à ce sujet-là et d'en faire un documentaire.
Mais moi, quand j'ai fait Les Roses, je suis devenu un peu obsédé par mon histoire familiale.
Ouais. Très intéressante quand même.
Ouais. Puis mon père, lui, avait manifesté à Saint-Léonard dans ces années-là. Puis là, tu sais, moi, je chapitrais Les Roses. C'était la maison du pêcheur, le lundi de la Maroc. Mais quand je suis allé à Saint-Léonard, j'ai vu à quel point c'est un événement compliqué, complexe, important, mais méconnu. Je me dis, je peux pas en faire un chapitre, là. Ça, c'est un film. C'est vraiment un film. Puis là, j'ai rencontré pour ma recherche Raymond Lemieux, qui était le porte-parole des francophones. Puis c'était vraiment le leader, là, tu sais, des archives et charismatique. C'est un anglophone.
Ouais.
Le gars, c'est un anglophone qui est devenu francophile parce que son père, c'est un franco-américain. Sa mère, c'est un Irlandais. Il est élevé en anglais, mais il tombe en amour avec le français. Pourquoi? Parce que quand il va travailler dans un shop, il réalise que le français est un peu la langue des soumis, des dominés. Mm-hmm. Puis il trouve qu'il y a une injustice, puis il s'attache à la culture québécoise et française. Donc, il devient ce porte-parole-là. Puis là, l'homme que je rencontre en 2017, c'est un homme en fin de vie. Puis qui était oublié complètement, que personne ne se rappelle. Il me racontait son histoire. Il était beaucoup plus affaibli, un peu timide même. Et il est décédé peu de temps après. Et aucun média n'a parlé. Pourtant, c'est un personnage central à la loi 101, parce que Camille Lorrain a fait la loi, mais lui et son mouvement ont labouré la terre. T'sais, la réflexion s'est vraiment faite par rapport à l'enseignement à Saint-Léonard. Donc moi, c'est vraiment... je trouve que c'est une injustice, parce que ce gars-là a souffert. Comme on peut voir dans le film, c'est un pacifique, mais lors qu'il y a une grosse émeute. Il y a une émeute là, à feu et à sang, les Italiens, les francophones se battent à Saint-Léonard, à coups de batte de baseball, à coups de briques. Ça fait le tour du monde. On arrête Raymond Lemieux, puis on l'accuse de sédition. Sédition, c'est quoi? Vouloir renverser le gouvernement. Complètement absurde, mais avec ça, on veut le briser. On le brise économiquement, on le brise, il ne peut plus travailler, ça brise sa famille aussi. Donc, ils ont fini par l'avoir, puis il ne s'en est jamais remis. Puis c'est pour ça qu'il s'est retiré publiquement, puis on l'a oublié. Donc moi, je veux le ramener dans l'espace public. C'est un personnage important pour moi.
Mais on dirait que... T'sais, le film, comment il est présenté aussi, comment le film est monté, c'est qu'on voit ces deux personnages principaux que tu as nommés, Raymond Lachance.
Raymond Lemieux puis Mario Baronnet. C'est ça.
Mais fait moi, qu'on les voit ça. Comme monter, pas comme une guerre de clochers, mais juste chacun, qu'est-ce qu'ils ont mené dans cette confrontation-là d'idées. Là.
Mais tu sais, moi, à cause de mon histoire familiale, je m'intéresse beaucoup aux répercussions du militantisme et famille.
OK.
T'sais, donc, admettons, t'sais, les gens, là, admettons, Baronnet, Lemieux, ont choisi. C'est des hommes de conviction, ils ont choisi de militer pour des camps différents. Mais les familles se retrouvent toujours au centre de ça, malgré eux.
Oui.
Ils choisissent pas. Puis c'est comme je disais tantôt, Lemieux, ça brisait la famille, mais ça crée des traumatismes chez Baronnet, des attentats à la bombe, tout ça. Et, t'sais, moi, je voulais pas, justement, que antagoniser la communauté italienne.
Non, c'est ça.
Donc, moi, c'était bien important. Je veux que les Italiens aient une voix, puis quand j'ai appris l'histoire de la Baronnet, je me suis dit, le gars, il a bâti la ville. C'est lui qui a bâti Saint-Léonard. Il était conseiller municipal, il était au cœur de l'action. C'était quasiment le vice-maire. Donc, j'appelle le fils. Puis je me dis, c'est pas ma zone de confort. T'sais. Félix Rose, je m'appelle comme quelqu'un de la communauté italienne. Je me dis, tu sais, je pars de reculons. Puis là, je l'appelle. Puis là, je lui parle de mon projet. Puis là, il est super emballé. Puis, oh, tu sais, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de mon père, il est content, tu sais. Puis là, je lui dis, tu sais, est-ce que tu sais je suis qui? Parce que je voulais pas qu'il l'apprenne par Internet. Il dit, non, t'es qui, Félix Rose, fils de Paul Rose? Silence. J'entends plus rien. Là, je me dis, ok, c'est fini, il va raccrocher au nez. Terminé, plus de projet. Puis là, il dit, ah, ouais! Puis là, il est comme pas fâché, il est pas offusqué, il est juste curieux, il me pose des questions, puis à un moment donné, il désamorce ça, puis il dit, tu sais, Félix, mon père aussi était controversé, tu sais, puis moi, je fais la différence entre toi et ton père, puis on va se rencontrer, puis je suis curieux, puis écoute, on est devenus des bons amis. Puis il me donnait accès à sa famille, la famille m'a fait confiance, puis tu sais, quand quelqu'un te fait confiance, tu vas être à la hauteur de la confiance qu'on t'accorde, donc c'est pour ça que j'ai décidé de montrer les deux points de vue qui se valent. T'sais, on comprend. Les francophones, on comprend vouloir protéger la langue. Les Italiens, on comprend qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Puis à l'époque, l'anglais était incontournable. Ouais. Donc, une fois que tu comprends ça, tu te dis, là, t'es plus les méchants et les bons. Là. T'es vraiment assez... Là, on est plus dans le dialogue. OK, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour pas que ça repasse la même chose aujourd'hui. Parce que comme tu dis, il y a plein de parallèles aujourd'hui. Puis on veut... la violence peut arriver facilement. Donc, on ne veut pas revivre un Saint-Léonard 2.0.
Non, c'est ça. Ouais.
Donc, il faut apprendre des erreurs du passé. Puis, pour moi, l'erreur de Saint-Léonard, c'est un manque de compréhension puis de communication. Parce que les francophones ont vraiment perçu la réaction de la communauté italienne comme un rejet. Comme quoi qu'on méprisait notre culture, notre langue, vraiment un rejet. Tandis que les Italiens ont perçu ça comme si on voulait leur enlever une liberté. T'sais, ils arrivent en Amérique, le rêve américain... Et là, ils arrivent d'un pays en guerre, puis là, on leur dit, on vous enlève un droit, celui de choisir la langue d'enseignement. Donc, ça aurait pu être un dialogue, mais à cause de la réaction du gouvernement qui est allé vite, puis il a dit, on fait un bill pour régler ça, c'est là que c'est devenu la violence. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut rééviter aussi. Puis moi, je pense que la solution est plus de, tu sais, il aurait fallu qu'il y ait une commission d'enquête, qu'il y ait une vraie réflexion, une vraie discussion. mais c'est jamais arrivé, tu sais.
Est-ce que tu penses que le décès de Daniel Johnson...
c'est un pivot. Parce que le premier ministre Daniel Johnson était bon pour tempérer les situations. Donc, c'est un fin renard, un fin politicien. Donc, ça restait une bataille locale, puis ça restait une guerre de clochers. Mais quand Johnson décède subitement, tragiquement, son remplaçant, Jean-Luc Bertrand, lui, c'est complètement une autre personnalité. Lui, il veut régler les affaires vite. Puis c'est lui qui fait que la crise locale devient une crise nationale, parce qu'en voulant aller vite, puis voulant dire le libre choix, la liberté, les nouveaux arrivants devraient choisir la langue, ça l'a offusqué beaucoup de Canadiens français, ça a amené à sa défaite électorale, et c'est le revirement, vraiment. C'est vraiment le revirement.
Ce que je trouve intéressant, il y a beaucoup d'images d'archives dans ton documentaire. Est-ce que c'est long aller chercher tout ça? Combien de temps qu'on fait des recherches?
7 ans. Sept ans. Quand j'ai commencé ma première entrevue avec le... ma seule entrevue avec le MUS, il y a 7 ans, 2017. Puis, tu sais, en même temps que les roses, je creusais ces longs nord, je suis un peu devenu fasciné par la crise. Puis, tu sais, c'est... Octobre, les roses, le défi, c'est... Tout le monde connaît la crise d'octobre, donc c'est la raconter différemment avec des images qu'on connaît pas. Donc, c'était creusé ailleurs. Tandis que ces longs nord, personne ne connaît ça.
Ouais.
Donc, c'est plus trouver les images de cette crise-là qui a été oubliée, l'imaginaire collectif. Donc, ça a pris 7 ans. J'ai dû aller chez des particuliers, trouver des archives moisies dans les sous-sols, les faire numériser, les restaurer. Tu sais, au Québec, malheureusement, on a la misère avec les archives. Tu sais, c'est mal catalogué, c'est pas numérisé. Donc, c'est des coûts aussi. Tu sais, j'ai été épaulé, tu sais, avec Picbois, puis là, Maison 4 Sœurs qui fait la distribution, de trouver le temps et les ressources pour pouvoir les archives. Puis, tu sais, c'est 500 heures là, d'écoute. Moi, ouais. J'étais avec... Le montage s'est fait chez nous, tu sais, parce que je me suis blessé. Je me suis fait... J'étais supposé de me faire opérer au genou. Ils m'ont dit, dans 4 jours, tu vas être correct. Ça a pris 4 mois. Puis moi, je travaillais dans un bureau, un 5e étage, pas d'ascenseur. Donc là, j'étais comme mal pris. Puis là, le monteur avait déménagé chez nous.
Ah ouais.
Donc, on était tout le temps ensemble. Puis on a bâti le film ensemble avec Michel. Moi, je trouvais les bijoux. Lui, il donnait une incarnation. Il donnait un souffle. Puis c'est comme ça, c'est petit trésor par trésor, petit bijou par bijou qu'on a pu faire l'ensemble. Puis moi, les archives, mon importance là-dedans, c'est ça qui donne une vibration. C'est ça qui te donne le feeling de l'époque, le sentiment de l'époque. Ça, le voyage dans le temps, je veux pas que les gens, ça soit juste du monde sur des chaises qui explique des affaires. Je veux qu'on ressente. Puis ça, les archives, quand tu trouves les bonnes, ça te permet d'aller là, t'sais.
Est-ce que, tu sais, il y a différents types de documentaires. Des fois, c'est quelqu'un qui va suivre Céline Dion pendant un an puis faire un topo de ça. Toi, comme c'est historique, tu sais déjà un peu c'est quoi la fin de l'événement. Fait que, est-ce que tu construis un peu tes entrevues puis tout ton montage en fonction de où tu veux te rendre à la fin, ou tu vois quand même comment les entrevues te porte puis dicte un peu la narration de ton récit?
C'est un mélange des deux, parce que moi, je fais beaucoup de recherches. Tu sais, souvent, les entrevues, je les fais, tu sais, des fois, il y a des personnes, je crée une relation avec les gens, parce que souvent, moi, je travaille pas avec des politiciens, tu sais, du monde qui sont habitués à la parole, tu sais, avec du monde qui sont pas habitués de faire la caméra. Puis pour ça, pour pas qu'ils se barrent, faut créer un lien de confiance. Donc, je débarre un lien de confiance. Donc, souvent, leur histoire, je la connais avant de faire les entrevues. Et une fois que je sens qu'ils sont prêts, la confiance est là, là, je fais des entrevues, mais je sais où je m'en vais, puis je connais l'histoire. Mais des fois, tu sais, moi, vu que j'ai pas un mode formel, tu sais, un peu comme vous, là, j'arrive pas, puis je dis pas, bon, dites vos questions, tu sais, dites mes questions dans vos réponses avec une caméra. Tu sais, moi, ma caméra, elle bouge. Donc, moi, j'utilise le mode de la conversation, ce qui fait qu'il oublie la caméra, il s'est moins comme formaté, et des fois... Il y a des émotions que tu n'avais pas prévues qui vont. Oui, ou tu te dis des trucs qu'ils t'ont pas dit avant, mais la caméra amène une magie où là, ils décident d'y aller. Donc là, tu peux être surpris. Mais globalement, le grand portrait, tu sais, avant, je sais où je m'en vais.
Ouais, la scène avec, j'oublie son prénom, mais tu sais, Madame Lemieux, puis ses 2 enfants, puis qui regardent des photos de mariage de l'époque, puis qu'on sait que ça a fini quand même difficilement pour leur famille, c'est super touchant et très vrai, là, ces scènes-là. T'sais.
Non, exact.
Moi, j'ai juste lancé, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, justement, en faisant ton documentaire?
Mais moi, c'est sûr que la communauté italienne, tu sais, du côté des francophones, c'est mon histoire. Tu sais, Raymond Lemieux, c'est, moi, j'ai grandi là-dedans. C'est sûr que le côté italien, je le connaissais pas. Donc, avoir appris, m'avoir mis dans la peau de la communauté italienne, puis voir à quel point que ça a été dur, l'immigration, voir aussi que, tu sais, c'est des ouvriers, là, comme ma famille, là. C'est des Italiens qui arrivaient, tu travaillais dans la construction, c'est vraiment des ouvriers. Puis, ça m'a permis d'empathiser avec eux, tu sais. Ça a permis d'éliminer mes préjugés. Parce que c'est sûr que, tu sais, t'as l'impression que les Italiens s'associent juste à un parti, le Parti libéral, puis tout ça, tu sais, t'as des préjugés comme ça. Mais, tu sais, en parlant avec eux, j'ai pu les comprendre. Puis, tu sais, je suis pas plus d'accord. Moi, je pense que la loi 101 est une grande loi. Mais là, en comprenant leur réalité, là, ça fait que, OK, ils étaient pas contre nous autres, dans le fond, tu sais. Puis c'est ça que j'ai aimé. Tu sais, ça m'a permis d'éliminer mes préjugés. C'est ça.
Puis, je pensais à ça tantôt, t'as parlé d'à peu près 500 heures d'archives, ouais, de travail et tout. Fait que j'imagine que c'est pas ton emploi à temps plein travailler sur un documentaire.
Tu vas t'étonner. Moi,
avec les subventions puis tout.
Mais moi, je fais de la télé aussi, hein.
OK.
Donc moi, je reste dans le documentaire, mais moi, la façon que je fonctionne, c'est que je fais une série télé, documentaire et un film en même temps. C'est sûr, en télé, c'est un revenu plus intéressant que du documentaire. Donc là, j'ai fait une sortie récemment, une série télé qui s'appelle Offenbach versus Corbeau, tu sais,
oui,
qui était sur vrai, qui va être diffusée à TVA, qui parle de langue aussi, mais du niveau culturel. Tandis que Saint-Léonard, moi, je voulais aborder la langue, mais du niveau plus politique.
Ouais, social,
donc,
politique.
Donc il y a,
ouais,
comme un complément. J'ai fait les deux en même temps. Donc le fait de faire deux projets en même temps, ça me permet de vivre correct, là.
Puis est-ce que tu sais déjà sur quoi tu t'en vas prochainement? Faut-tu que tu ailles un prochain film documentaire? Tu sais, ça fait partie de ta vie de tout le temps travailler sur quelque chose? Ça fait comme
je te dis,
10-12 ans que tu as été sur Les Roses, puis après Saint-Léonard.
Ça, c'est comme par pas, tu sais. Saint-Léonard, j'ai fait ça pendant des années, puis je travaillais sur une série télé qui s'appelait Le Dernier Felkis,
okay,
qui était sur l'assassinat de Mario Bachand. Donc j'ai fait les deux en même temps. Puis après, je me suis retrouvé devant rien. Je savais pas quoi faire. Saint-Léonard, j'avais une institution parce que j'avais fait l'entrevue, tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis intéressé au rock québécois. Je sais pas pourquoi. Ça m'a amené là. T'sais. J'avais rencontré Pierre Harel. Je trouvais le gars fascinant. Puis ça a été comme... Saint-Léonard moins, mais Offenbach versus Corbeau, c'est comme une bulle au cerveau. Puis j'ai passé 3 ans avec des rockers qui sont pas si différents que des Felkis. Okay. Il y avait quand même, au niveau du langage, il y avait quand même des similitudes. Mais là, je suis à la même étape. Là, je travaille, là, Saint-Léonard, là, je veux que le film vive, juste qu'il voyage. Là, je mets toute l'énergie là-dessus. Mais après, je reviens comme un peu à zéro. C'est quoi la suite? Donc, c'est sûr que, comme une angoisse existentielle, j'essaie pas trop d'y penser présentement. T'sais.
Puis, curiosité de cinéphile, là, Félix qui travaille sur le Québec, la langue, l'histoire politique. C'est quoi ton genre de film, sinon? T'es-tu comme un gros fan de Transformers, puis on sait pas ça? Puis...
Moi, je suis un cinéphile, puis le monde pense que je suis snob parce que je fais du doc. Mais tu sais, moi, je fais du
Brisons
doc...
Brisons les tabous.
Ouais. Ben, je fais du doc qui reprend des cas de la fiction. Parce que moi, j'ai commencé en fiction. Je travaillais sur une web-série, j'étais scénariste qui s'appelait Temps mort. Quelque chose de post-apocalyptique, tout ça. Okay. J'aime le genre. Puis des fois, je me fais un ciné-club là, avec des amis. On regarde les vieux Arnold. Là,
Commando.
Je suis un cinéphile. Là, j'aurais écouté du Godard comme j'aurais écouté du Steven Seagal. Là,
oui, c'est ça.
C'est, je veux dire,
en plus, on a à peu près le même âge, fait qu'on a grandi.
On a les mêmes références.
C'est ça, Schwarzenegger. La guerre Schwarzenegger, Stallone. Ben,
c'est ça. Puis tu sais, ma fille, elle a 6 ans. Puis là, je suis en train de tout lui faire découvrir les films de mon enfance. Labyrinthe, Beetlejuice, on est allé.
OK.
Donc tu sais, moi, je suis ouvert, là. J'aime ça, j'aime le cinéma, puis tu sais, je pense pas qu'il devrait avoir un seul type de cinéma, là, tu sais. Puis le documentaire, si j'en fais, c'est parce qu'on dirait que c'est... Moi, j'aime la réalité, j'aime jongler avec la réalité, tu sais. La fiction, c'est le fun, tout vient de ta tête, mais le documentaire, c'est comme, tu t'adaptes, c'est pas toi qui lis, tu sais, t'as une vision... Mais c'est comme t'essayes de capter quelque chose.
Ouais, OK.
Puis c'est tout le temps ton sujet qui t'emmène quelque part. Puis j'aime ce thrill-là que tu retrouves pas en fiction.
Mais est-ce que tu penses qu'un jour, tu ferais peut-être une fiction historique ou quelque chose de même?
Je ferme pas la porte.
Okay.
Là, je suis pas là. Présentement, je suis pas là. Mais écoute, moi, j'aime la fiction, j'en regarde beaucoup, puis c'est ça, là, je veux dire, les documentaristes, là, on n'est pas genre du documentaire, puis je sais, non, je veux dire, on est des cinéphiles,
vous êtes du vrai
cinéma.
Monde, là.
Oui, puis tu sais, moi, je me bats, pour moi, là, tu sais, on avait, écoute, ça avait été une grosse affaire, Les Roses, on n'avait pas de nomination, c'est aucune.
Oui, c'est vrai, puis ça a fait un tollé, il n'y avait pas eu Twitter qui s'était enflammé.
On avait zéro nomination, puis tu sais, ça avait un film qui avait bien marché.
Ah oui, il y a comme plus de 200 000, je pense que c'est le plus gros succès de l'ONF. Oui,
en tout cas des dernières années.
Pour un documentaire en général et tout.
Puis normalement, il y a une nomination qu'on aurait dû avoir de façon mathématique, c'est le prix du public, parce que c'est les 5 box-office. Mm-hmm. Nous, tu sais, Les Roses avait été un phénomène. Là, tu sais, on était au Goudzou, tout ça, on était dans le top 5 du box-office. Mais on n'était pas là. Puis là, il y a du monde qui se sont signés, mais pourquoi Les Roses n'est pas là? Puis là, le Québec Cinéma avait dit à l'époque, on ne prend pas de documentaire. Mais pourtant, le documentaire, c'est un film. Puis c'était la première fois que tu avais un film documentaire qui se rend au box-office.
Oui, c'est ça. Mm.
Puis là, on prend pas de documentaire. Donc là, il y a eu des artistes, il y a eu une pétition qui fait qu'à un moment donné, ils ont dit « OK, on va mettre tous les films, le monde, on va tous faire les films québécois qui sont sortis, on va faire un premier tour, vous allez voter. » Le monde a voté, puis surprenamment, 2 films sur 5, c'était 2 documentaires.
Okay.
Les Roses et Je m'appelle humain.
Oui.
Et Les Roses a gagné le prix du public. Puis moi, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit, tu sais, premièrement, c'est public. Tu sais, le documentaire, c'est pas un sous-genre. Premièrement, c'est un genre fondateur. On l'a quasiment inventé, genre-là. Le cinéma direct, là, c'est des pionniers comme Brault, Perrault. Tu sais, je veux dire, notre cinéma est connu partout dans le monde. Tu sais, l'équipement léger, tout ça, ça part d'ici, là. Donc, ça fait partie de nous. Et pour moi, faut le remettre de l'avant. Puis les gens aiment ça, du documentaire. Avec les plateformes de diffusion, le monde en regarde bien plus maintenant. Oui. Là. Mais là, faut ramener les gens à dire, OK, déjà... Amener quelqu'un au cinéma, c'est difficile pour une fiction. Un documentaire, là, c'est une difficulté de plus.
Ouais.
Mais dire, oui, un documentaire, c'est pas juste informatif, ça peut être une expérience cinématographique aussi, qui se vit en salle. Nous, tu sais, il y a les archives, mais il y a le son, là. Il a recréé des sons, des archives, tout ça. Puis pour moi, c'est un film avec la musique qui se vit en salle si tu veux pas être capté à 100%. C'est sûr que moi, je regarde beaucoup de trucs sur ma tablette puis chez nous, mais quand tu l'écoutes avec la brassée de lavage puis ton téléphone, c'est pas le même genre d'implication. T'sais.
Ouais, puis c'est probablement le genre de film aussi que tu manques 5 minutes, c'est assez drastique, là, contrairement à d'autres que
c'est
ça. Tu peux aller aux toilettes pendant Betelgeuse puis tu vas être correct probablement, mais...
Oui.
Ben, je veux pas dénigrer tous les autres films, puis
Non, mais moi, j'ai beaucoup apprécié le montage et c'est vraiment bâti un peu comme un thriller politique, là. Il y a vraiment un crescendo qui est super intéressant, puis je pense que le film va susciter beaucoup de discussions. En tout cas, moi, dans ma famille, j'ai une tante italienne qui vient de Saint-Léonard.
Wow.
Et c'est certain que je vais lui en parler la prochaine fois que je vais la voir, parce qu'elle a grandi dans les années 60-70, fait que c'est sûr.
C'est sûr qu'elle a connu ça.
Ben oui, c'est certain, là, fait que je suis vraiment curieux de voir comment elle va me parler de cet événement-là.
OK, fait que peut-être sa maison familiale, c'est Baronnet qui l'avait vendu.
Il y a des bonnes chances. Un duplex, est-ce qu'elle vivait dans un duplex?
Non, c'était une maison, familiale.
Il faisait des maisons aussi, il a fait beaucoup de maisons. Parce que lui, tu sais, c'est un commerçant, mais en même temps, il y avait... une conscientisation, tu sais, il aimait la communauté italienne, puis il assouplait les parce que, comme je disais, les Italiens étaient plus pauvres que les Canadiens et Français, mais il les encourageait à devenir propriétaires, et il assouplait les hypothèques. Puis même, il était un peu slack sur le loyer, ce qui fait que beaucoup de gens assez pauvres sont devenus propriétaires, puis 50 ans plus tard, ils ont vendu leur duplex à plus $1 million.
Mm-hmm.
C'est devenu un revenu, là, donc, Baronnet avait vraiment un attachement par rapport à sa communauté. Puis Saint-Léonard, c'était un rêve, là. Lui, il voulait faire une ville italienne.
Oui, c'est assez fou, je suis allé lire un petit peu, justement, sur tout ce sujet-là, puis Saint-Léonard est passé comme de 300 habitants à 15 000 en même pas 10 ans, là.
Okay.
C'est hallucinant.
La ville s'est construite en quelques années. Ah, oui. Avant, c'était des coops d'habitation. Mais tu sais, aujourd'hui, là, ça prendrait... Écoute, le gars, il a construit une ville en quelques années. Là. Puis tu sais, c'est sûr que c'est un choc. Il y avait des agriculteurs, il y avait des gens de la coop d'habitation que eux, c'était un côté plus communautaire. Là. Ils voulaient pas avoir des trucs trop hauts. Ils voulaient avoir leur terrain. Puis eux, ils arrivent massivement. Puis en quelques années, les Italiens deviennent 40% de l'habitation. Là, ils demandent des services en italien. Ils veulent, tu sais, au début, c'est des niaiseries. Ils veulent que les arbres soient comme coupés comme en Italie, en rond.
OK.
Non, ça commence un peu de même, là, un choc culturel, dans le fond. Mais en même temps, il y avait quand même des similitudes. Les Italiens, c'est des catholiques, tu sais, au niveau des valeurs, il y avait beaucoup de connexions. Puis moi, les gens de Saint-Laurent me disent, la famille Baronnet, ils disent, nous, là, quand t'es jeune, là, on s'en sentait bien avec les francophones. On jouait avec eux dans la cour, tout ça. C'est à Saint-Laurent. Moi, les enfants les plus vieux là, de la fratrie Baronnet, ils me disent... Nous, on avait plein de relations avec les francophones. Les plus jeunes, qu'eux sont allés, qui sont après Saint-Laurent, ils disent, mais nous, c'était pas nos amis. Là. sais, c'était comme les tensions étaient là, on s'insultait.
Ah, ouais.
Donc Saint-Laurent a vraiment coupé. En tout cas, la crise de Saint-Laurent a créé une coupure, une rupture, tu sais.
Fait que, ben, voilà. Merci beaucoup, ouais. Félix, pour ton temps. Merci pour ton film. Puis,
ben, merci à
vous. Tout le monde à aller voir La bataille de Saint-Léonard dans votre cinéma. Puis si votre cinéma ne l'offre pas, ben, dites-leur de le booker. Voilà.